C'est le temps de. Ben, ça, c'est le retour parce qu'elle est en congé. On a le droit, hein, de prendre des congés de tout le monde. Roxane de la Sablonnière, qui est professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, qui participe régulièrement à l'émission pour nous parler, donc, de ce qu'on parle de psychologie sociale. Et on va revenir encore une fois sur la COVID-19. Pourquoi? Parce que, ben, il y a des leçons qu'on va devoir tirer de ça. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais il y a des leçons très particulières à tirer là-dessus. Je rejoins donc Roxane, qui est au bout du fil. Bonjour, Roxane.
Bonjour, Denis Martin, vous allez bien?
Très bien, très bien. Ben, justement, revenons donc sur cette pandémie. On s'est rendu compte qu'il y avait des lacunes. Rapidement, on peut peut-être faire le tour de ça dans notre système de santé mentale ou de santé psychologique.
Oui, en effet. Puis, je voulais dire aussi que j'ai préparé cette chronique avec Benjamin Chabot,
Oui.
qui n'est pas dans votre famille, mais qui a le même nom de famille que vous.
On a
Donc,
tous, il y a qu'un seul ancêtre. Alors, quelque part, on est
pour vrai?
relié. Oui. Ben, il y en
Bon,
avait
ben
deux, mais il y en
tant
a
mieux.
juste un qui a eu des enfants. C'est ça.
OK, tant mieux. Donc, juste à titre de rappel, un changement social dramatique comme celui de la COVID, c'est soudain, donc ça arrive rapidement. On a été confinés rapidement. Il y a des ruptures dans nos institutions, comme le système de santé. Il a été éprouvé énormément. L'éducation, les écoles ont fermé, etc. Nos comportements ont changé aussi. On a porté le masque, on s'est distancié les uns des autres, même si on avait besoin de ce soutien de nos proches, on ne pouvait pas l'avoir nécessairement. Puis ça a eu des effets aussi sur notre sentiment d'identité. Il y a eu une certaine menace à savoir qui on était dans ce contexte. Donc, ça a des répercussions importantes. On l'a tous vu. Sur le plan de la santé mentale, on l'a vu, il y a eu des effets sur la santé psychologique des gens. Par exemple, une augmentation de la détresse. Il y a eu des délais d'attente jusqu'à 24 mois pour rencontrer un psychologue. Les gouvernements aussi étaient parfois incohérents dans l'annonce des mesures sanitaires.
Tout à fait.
Une journée, on annonçait quelque chose, le lendemain, autre chose. Donc, c'est très difficile pour les gens de savoir quoi faire dans ce contexte-là. Il y a eu beaucoup de défis au niveau, sur le plan communautaire, en matière de soutien aux familles. Puis, finalement, on a vu des problématiques associées à la cohésion sociale, comme une polarisation entre les groupes. Certains groupes ont été plus ostracisés que d'autres. Maintenant que la poussière retombe, on est en mesure de faire plusieurs constats. Certains groupes, par exemple, et certaines personnes, on a vu qu'ils étaient plus vulnérables que les autres. Par exemple, les jeunes, les personnes âgées au tout
Oui,
début de la pandémie
puis
aussi.
je vais t'interrompre
Oui?
parce que je disais plus tôt cette semaine qu'au cégep de Limoilou, parce que là, les gens qui ont commencé à entrer au cégep en première année, c'était des jeunes qui ont vécu cette pandémie, qui ont étudié au secondaire seuls dans la maison et ont amené des chiens de thérapie, hein, de la zoothérapie, pour aider ces jeunes-là parce qu'ils souffraient justement de cette espèce d'exclusion là, qu'ils ont vécu.
Oui, exactement. Puis c'est ce type de solution qu'on devra penser, peut-être autre, auquel on est moins habitué. Puis j'aime beaucoup employer le terme solution collective. Donc, on se doit d'avoir une réflexion collective parce que c'est vraiment un défi qui est communautaire, collectif. Ça touche tout le monde.
Mais
Puis
justement,
souvent, oui.
on reparle de cette pandémie, on est fatigué d'en entendre parler, mais c'est important d'en parler.
Tout à fait, c'est vraiment important. Puis oui, on est fatigué, on a tous été affectés, tous et toutes affectés. C'est venu puiser là, dans nos ressources. Puis c'est vraiment normal d'être fatigué d'en parler. Il y a même des chercheurs qui ont développé le concept de la fatigue pandémique. On en a même discuté à cette chronique-là. Mais faut pas se mettre la tête dans le sable. Il y aura d'autres crises sociales dans le futur, puis il faut bien s'y préparer. Par exemple, les changements liés à la crise climatique. On a vu les feux de forêt, les inondations. Puis il y a aussi des tragédies qui arrivent dans certaines communautés, comme celle du lac Mégantic il y a quelques années. Donc, c'est possible que ces crises futures-là nous frappent. Puis, si on n'est pas bien préparé, elles vont nous frapper encore plus fort parce que nous serons épuisés et fragilisés. C'est pour ça que je vous propose une réflexion pour mieux accueillir la prochaine crise, puis mieux être préparé. Une réflexion approfondie, puis lancer des pistes là, de réflexion avec vous.
Ben allons-y, on n'a pas beaucoup de temps, mais allons-y justement sur comment se préparer.
Oui, pour se préparer, il faut d'abord travailler en amont. Donc, il y a trois phases dans une crise. Il faut en prendre compte pour bien se préparer. Donc, il y a l'avant-crise, donc la prévention quoi faire pour être bien prêt. Le pendant la crise, c'est la gestion de la crise au moment où en temps réel. Et puis, l'après, qu'on nomme le rétablissement. Et on pourrait dire qu'en ce moment, en lien avec la pandémie, on est dans cette phase de rétablissement. Il y a trois niveaux qu'on peut réfléchir, les crises et la préparation au niveau de la société, au niveau des groupes et des communautés et au niveau des individus. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus de la société, mais on pourra y revenir. Il y a un concept clé qui est important, c'est les ressources disponibles. Donc, afin de se remettre sur pied rapidement, puis en temps de crise, ou bien même dans la phase de rétablissement, là, pour mieux aller après une crise, c'est important de développer un système de ressources fort, qui soit sur le plan individuel, qu'est-ce que j'ai besoin comme individu, communautaire dans mon groupe ou dans les groupes auxquels j'appartiens ou au niveau de la société, les institutions ou les gouvernements, etc.
Donc, quelles sont les étapes là, à faire, à ton avis?
Oui, il y aurait deux étapes. Premièrement, faire un bilan. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Puis aussi, quelles sont les façons de s'améliorer? Le faire à tous les niveaux de la société, les instances gouvernementales, les organisations, les milieux communautaires, les familles et l'individu doivent aussi faire cette introspection. Ensuite, il faudrait bâtir un plan d'action pour se préparer. Donc, puis il ne faut pas le faire quand on est dans une situation d'urgence. Souvent, on a tendance à faire un plan quand on est dans une situation d'urgence, mais si on le fait en lien avec notre bilan, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour mieux nous préparer aux prochains défis qui s'annoncent? Donc, puis aussi, bien se préparer, ça ne veut pas dire d'arrêter de vivre, mais plutôt d'être prêt ou prête quand il y a une crise qui s'annonce. Donc, aujourd'hui, je voulais vous proposer une réflexion au niveau de la société, mais je vois que le temps file. On pourra y revenir, là, vous déciderez jusqu'où on va.
Allons-y en tant que société, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est important là, de le souligner.
Oui, puis mon regard, évidemment, se fait avec une lunette là, de psychologie sociale en priorité sur le bien-être et la santé mentale. Donc, en tant que société, ici, on s'inspire des grandes lignes, des normes internationales en réponse à une crise, par exemple, lors de crises humanitaires. Donc, on doit investir dans nos capacités à soutenir la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est la capacité à se parler, à travailler ensemble, à réduire la discrimination et la polarisation. On l'a vu avec la pandémie, ça a été un sujet important. Il y a beaucoup de groupes qui se sont affrontés, où il y a eu beaucoup de débats, masques, anti-masques. On doit vraiment essayer de travailler ensemble le plus possible pour favoriser une cohésion lors d'une crise. Améliorer l'efficacité des systèmes de santé. Afin de répondre à des crises futures, le système de la santé est constamment mis à l'épreuve, même si on n'est pas dans une situation de crise. Donc, on doit penser peut-être à des solutions collectives, alternatives, communautaires, puis peut-être renforcer aussi l'argent qu'on y investit sur le plan gouvernemental pour donner peut-être plus de jus à ces groupes-là afin de faire leur travail et de bien faire leur travail en continuité aussi. Un autre élément pourrait être l'amélioration de la communication. Donc, on doit s'assurer, par exemple, si les gouvernements annoncent certaines mesures, qu'elles soient claires et cohérentes. Ça, c'est très difficile à faire parce que souvent, il y a des messages qui peuvent s'opposer. Puis en situation de crise, on est vraiment dans le temps réel, au jour le jour. Donc, ça peut être difficile, mais toujours s'efforcer d'avoir un message clair et cohérent pour faciliter la communication avec la population. On a aussi, faut vraiment s'assurer de la sécurité, dignité, les droits humains, les besoins de base. Les enfants, par exemple, qui se développent bien malgré la crise, puis d'éviter les situations précaires comme le manque de logement. On a vu récemment, par exemple, que certains groupes communautaires perdaient leurs locaux, où il y avait une possibilité de perdre leurs locaux. Ben, c'est inacceptable. On doit s'assurer que ce type de situation n'arrive pas, surtout en temps de crise et aussi même avant la crise.
On va aller rapidement ce qu'on peut faire en temps d'urgence. Il nous reste une petite minute, puis je pense que c'est important ce que tu as à dire là-dessus. Puis on refilera le reste à la semaine prochaine lors de la prochaine chronique.
Dans quelques semaines, je pense que c'est à chaque mois.
C'est à chaque mois,
oui. Oui, c'est ça. Donc, s'assurer que les interventions d'urgence ne portent pas préjudice ou atteinte à la dignité. Vraiment investir dans les ressources existantes dans la société. Donc, renforcer les capacités des citoyens et des citoyennes, renforcer les ressources existantes dans les communautés. Donc, on l'a déjà dit, peut-être revoir les ressources communautaires, donc leur rôle en temps de crise, puis en prévention aussi, pour s'assurer que ces groupes-là fonctionnent bien au jour le jour. Finalement, il faudrait vraiment investir dans la science. Comprendre le changement, c'est quelque chose de très complexe. Puis il y a beaucoup de données qui ont été amassées pendant la crise de la COVID et d'autres crises. Donc, il faut investir dans une analyse profonde de ces données-là et dans l'émergence de groupes, peut-être, de chercheurs qui travaillent en interdisciplinarité afin de s'assurer qu'on ne travaille pas seul, mais bien en équipe pour se préparer dans les crises futures.
Alors, Roxane de la Savonnière, je pense qu'on va vous donner un poste comme animatrice de radio ici. Vous avez fini votre chronique et vous avez fait toucher tous les points qui étaient prévus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Moi, je quitte l'émission parce que c'est Hélène qui revient la semaine prochaine, mais c'est un plaisir de travailler avec toi.
Bien, ça m'a fait plaisir aussi, puis je vous souhaite une belle journée à tout le monde.
Merci, au revoir.
Bye-bye.